France Info.
En Méditerranée, un vent de sud-sud-est vers les côtes varoises, jusqu'à l'Aude, autour de la Corse aussi. Et comme ces derniers jours, il y a quelques brouillards, mais qui vont vite se lever sur la partie nord. Cette période de grande douceur d'ailleurs se poursuit parce que les températures vont rapidement grimper. On va certainement avoir du 20 degrés même au nord.
Incroyable. Merci beaucoup. Christine Peña. Merci à tous d'être à l'écoute de France Info. Il est 5h. Et à la une ce matin, cette prise de parole donc du chef de l'État français sur la guerre au Moyen-Orient. Emmanuel Macron dit vouloir agir pour protéger notre pays et garantir la sécurité des Français. Un premier vol de rapatriement de Français vient d'atterrir à Paris pendant la nuit. Le chef de l'État veut aussi sécuriser le trafic maritime. La paralysie du détroit d'Ormuz entraîne une augmentation des prix du pétrole sur les marchés et des Français se ruent déjà dans les stations essence. Les attaques se poursuivent en ce moment même. L'Iran s'en prend aux représentations diplomatiques américaines. Et puis, dans le reste de l'actualité, du football. Ce soir, 37 ans que l'OM n'a pas gagné la Coupe de France. Les Marseillais jouent en quart de finale contre Toulouse. Le président assis à son bureau à l'Élysée devant le drapeau français et européen pour une prise de parole de moins de 10 minutes, allocution sur la situation en cours au Moyen-Orient après les attaques américaines et israéliennes le week-end dernier, puis la riposte iranienne. Audrey Tison, le chef de l'État, a surtout voulu montrer que la France agissait.
La France est aux côtés de ses amis et de ses alliés dans la région, assure Emmanuel Macron, qui cite en particulier les Émirats, le Qatar, le Koweït. Notre pays a une responsabilité défensive et a agi dès le début du conflit, dit-il.
Nous avons abattu en légitime défense des drones pour défendre l'espace aérien de nos alliés qui savent pouvoir compter sur nous. Des rafales, des systèmes de défense antiaérienne et de radars aéroportés ont été déployés ces dernières heures.
Des moyens sont aussi envoyés à Chypre avec la frégate Le Languedoc qui vient d'arriver sur place. La France va d'ailleurs encore renforcer sa présence militaire en Méditerranée.
J'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégate fassent route vers la Méditerranée.
Paris veut aussi agir pour empêcher le blocage des bateaux dans le détroit d'Ormuz et le canal de Suez.
Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale.
Les prix du pétrole et du gaz dépendent de ce trafic, souligne le président français, qui veut ainsi préserver nos intérêts économiques.
Audrey Tison, Emmanuel Macron annonce donc une coalition à venir pour sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est par cette voie maritime que transite 20% du pétrole mondial. La marine américaine pourra aussi escorter des pétroliers si nécessaire, propose aussi le président américain. Mais il n'y a pas de risque de pénurie, insiste le ministre de l'économie français Roland Lescure, qui sera d'ailleurs l'invité du 8h30 France Info tout à l'heure. Pourtant, les automobilistes français se pressent dans certaines stations essence pour faire le plein. Ils craignent une augmentation des prix à la pompe. C'est ce que vous avez constaté près de Rouen, Christine Wurs.
C'est un flux ininterrompu de voitures à la station-service du centre commercial et évidemment tout le monde a une bonne raison de faire le plein.
On va à Paris.
Regardez, la jauge est à zéro.
Enfin, plus ou moins.
C'est le patron qui m'a dit d'y aller parce que tout le monde y va, mais quand tout le monde arrêtera d'y aller, on pourrait retourner.
Ce n'est pas encore le rush à la pompe, mais l'affluence est inhabituelle, constate Youssef.
Ah, les gens, ils s'affolent un petit peu pour rien peut-être. C'est là que les cuves vont se vider.
Sur son scooter, sur la réserve, Jean-Paul se désole.
Les gens s'en foutent. Dès qu'ils commencent à parler d'impôts, d'augmentation et tout ça, les gens, pour 50 centimes sur un plein, ils vont faire 2 heures de queue bientôt. C'est débile.
Car beaucoup font des pleins de précautions.
J'aimerais bien que ça marche d'ailleurs.
Elle est peut-être vide.
Il manquerait plus que ça, tiens.
Éléonore complète son réservoir sur le conseil de son conjoint.
Je suis pas du genre à regarder tout le temps ce qui se passe dans mon réservoir. Mais là, je me suis dit, on va peut-être anticiper un petit peu le coup. Hein. Et ben, je pense qu'on fait comme tout le monde.
Beaucoup, comme Aldo, craignent surtout une augmentation des prix dans les jours qui viennent.
Oui, on n'a même pas les moyens de faire le plein. On a du mal à faire les fins de mois avec tout ça qui se passe.
Le litre de gasoil a déjà pris quelques centimes, observe Ophélie.
La semaine dernière, je ne vais payer pas ce prix-là.
Et les spécialistes prédisent une hausse de 7 à 10 centimes dans les semaines qui viennent. prochaine.
Christine Wurs, ici Normandie, Rouen pour France Info. Pas de pause donc dans cette guerre. Israël dit avoir lancé une large vague de nouvelles frappes sur l'Iran pour cibler, dit l'armée, des sites de lancement des systèmes de défense aérienne et d'autres infrastructures en Iran. Les Américains, eux, font un premier bilan et assurent que plus de 2000 frappes ont déjà été menées depuis ce week-end. Deux fois plus que celles sur l'Irak en 2003, selon l'armée. Cela n'empêche pas les États-Unis d'être touchés par la riposte iranienne. Après, les bases militaires, des bâtiments diplomatiques ont été pris pour cible dans plusieurs villes du Moyen-Orient. Franck Madvon.
Ces attaques n'ont fait ni mort ni blessé, mais aux États-Unis, les images ont fait le tour des télés et des réseaux sociaux. De la fumée qui s'échappe du consulat américain à Dubaï, le parking a été touché. À Riyad, en Arabie Saoudite, c'est l'ambassade qui a été prise pour cible. Une partie du toit s'est effondrée. Symboliquement, et rien n'indique que ce soit délibéré, une station de la CIA dans le bâtiment a été frappée. Même si les capacités de combat de l'Iran sont en partie détruites, ces drones font donc des dégâts. Les États-Unis conseillent à leurs ressortissants de quitter le Moyen-Orient. Ils organisent des vols de rapatriement. Près de 10 000 Américains sont rentrés chez eux. Les États-Unis ont déjà perdu 6 soldats tombés dimanche dans une attaque de drones au Koweït. 4 ont été identifiés, 3 hommes et une femme, les premiers visages des victimes de la guerre côté américain. Washington redoute qu'il y en ait d'autres et prépare d'ailleurs l'opinion à ces drames. Donald Trump lui-même a indiqué à plusieurs reprises qu'il fallait s'attendre à des pertes.
Franck Matevon, correspondant de France Info aux États-Unis, et le Liban est aussi maintenant directement impliqué. L'armée israélienne veut viser le Hezbollah, milice pro-iranienne. Le chef de l'armée israélienne promet de frapper le groupe jusqu'à ce qu'il se désarme. Plus de 58 000 Libanais ont déjà dû fuir les zones bombardées par l'armée israélienne. Et cette situation géopolitique très instable agite les marchés financiers. La bourse de Hong Kong chute encore ce matin de 3%, déstabilisée par cette crise au Moyen-Orient. France Info, il est 5h06. Dans le reste de l'actualité, cette passerelle qui s'effondre en Espagne. Il y a au moins 5 morts. Une autre personne est portée disparue sur une plage dans le nord du pays. La passerelle en bois reliait deux petites falaises. Le procès a été suspendu le temps d'une expertise médicale. L'audience doit reprendre pour le procès de Tariq Ramadan pour viol cet après-midi. L'islamologue est accusé par 3 femmes. Lundi, alors que son procès s'ouvrait et qu'il avait l'obligation de se trouver en France, ses avocats avaient indiqué qu'il était hospitalisé en Suisse. Il est atteint d'une sclérose en plaques. 2 experts doivent se prononcer sur son état de santé. Le procès peut être renvoyé. Face aux difficultés financières, Nikon, l'éditeur de jeux vidéo français, est placé en redressement judiciaire. La maison mère de Nikon peine à rembourser 43 millions d'euros de prêts. Le groupe réunit 16 studios de développement. Et puis Strasbourg retrouve les demi-finales de la Coupe de France de football. La dernière fois, c'était il y a 25 ans. Les Alsaciens ont battu Reims hier de 2-1. Ce soir, suite de ces quarts de finale de la Coupe de France de foot avec Lorient contre Nice à 20h30 et Marseille contre Toulouse à 21h. L'OM en crise depuis un mois maintenant, mais qui a repris un petit peu de vigueur grâce à sa victoire en championnat face à Lyon dimanche. La Coupe de France est un objectif majeur pour le nouvel entraîneur marseillais Habib Bey, Jean-Pierre Blimaud.
Quand on parle de la Coupe de France aux supporters marseillais, ils s'impatientent. Le trophée leur échappe en effet depuis 37 ans, rappelle Bernard.
Ça date quand même. Il faudrait que cette fois-ci, on la gagne.
La Coupe de France pourrait aussi être un tremplin pour Habib Bey, le nouvel entraîneur marseillais.
Je pense qu'il est important qu'on fixe des objectifs très élevés. À nous d'être très motivés pour cet objectif-là. On sait que c'est très important pour le club, pour le propriétaire, on l'a dit. À nous d'avoir justement cette sérénité pour bien vivre ces moments-là.
Cet ancien joueur du club s'est d'ailleurs vite intégré, constate Geoffrey Kondogbia, l'un des milieux de terrain.
C'est quelqu'un déjà qui connaît très très bien ce club, on le ressent. Après, c'est quand même un peu tôt pour pouvoir évaluer ou mettre des mots sur le coach. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis content de travailler aussi avec le coach et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses ensemble.
Comme cette victoire arrachée en championnat dimanche face à Lyon et qui a relancé l'OM dans sa quête d'un podium. Mais s'il fallait choisir, c'est le bon moment de viser la Coupe de France, estime Damien, un autre habitué du Vélodrome.
Ça ramènera un titre, donc voilà, à choisir la Coupe de France.
Le dernier titre de l'OM remonte à 2012 en Coupe de la Ligue et depuis le rachat du club par le propriétaire américain Frank McCourt en 2016, l'OM n'a plus dépassé les quarts de finale de la Coupe de France.
Marseille contre Toulouse, c'est à 21h en direct sur France Info et le dernier quart de finale entre Lyon et Lens, ce sera demain. Il est 5h09 sur France Info, Christine Peña est de retour dans le studio avec son couteau de cuisine. Ouais. Puisque la France est coupée en deux.
Voilà, on la coupe en deux entre Bordeaux et Grenoble. Là, au sud de cette ligne, nous avons Bah, des nuages qui sont encore présents et quelques petites pluies qui peuvent circuler sur le Languedoc ou encore sur la Corse aujourd'hui. Et puis nous avons toujours ce beau soleil au nord de cette ligne, donc sur une grande partie du pays, avec la fraîcheur matinale vite oubliée, puisque les températures remontent encore et elles seront d'un bon niveau, de 18 à 20 degrés très souvent, même au nord, on aura 19
même au nord.
À Paris.
Merci beaucoup Christine Fénien.
France Info, première plateforme d'actualité, source Médiamétrie.net Ratings.
Chaque mois, vous êtes 24 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
France Info, toujours en édition spéciale, ce matin pour suivre les derniers événements en cours au Moyen-Orient et surtout les décrypter, les analyser. Reportage en Turquie dans moins de 10 minutes, seul pays de la région qui n'a pas subi de représailles de la part de l'Iran. Il fait pourtant partie de l'OTAN et est donc un allié des États-Unis. D'abord, revenons sur la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir.
France Info, édition spéciale, Maureen Suignard.
8 minutes pour faire un point sur une situation ô combien complexe. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier soir alors que les États-Unis et Israël poursuivent leur opération militaire en Iran. Téhéran continue de son côté de riposter et s'en prend aux pays de toute la région. Emmanuel Macron estime que l'Iran porte la responsabilité première de cette guerre mais dénonce des opérations militaires menées en dehors du cadre international. Il annonce l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, notamment pour sécuriser le trafic maritime. Le chef de l'État a aussi cherché à rassurer les Français. Un premier vol de rapatriement est arrivé pendant la nuit. Pour Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public à Paris Panthéon-Assas, il a cherché à montrer que la France agissait.
Il essaye d'investir ce terrain international qui lui prend beaucoup de temps, qui prend nécessairement beaucoup de temps en réalité au chef de l'État, mais sur lequel aujourd'hui il peut concentrer sa communication. Donc là, on a deux, je dirais, grands axes. Le premier, c'est une volonté d'être le pédagogue d'une forme de situation en incarnant l'unité de la nation face à ce monde qui bouge et qui est de plus en plus dangereux. De l'autre côté, c'est malgré tout de tenter de rassurer l'opinion en montrant que la France n'est pas passive dans cette situation de danger et que lui-même et le gouvernement prennent les mesures qu'il faut pour que la sécurité de nos ressortissants soit garantie.
Il faut rassurer les Français.
Il faut rassurer les Français, oui, d'abord parce que vous avez une angoisse pour les Français qui aujourd'hui se situent au Moyen-Orient, et puis deuxièmement, et donc là il y a un intérêt en termes de solidarité nationale et de rôle de l'État vis-à-vis de nos ressortissants, et de l'autre côté, vous avez la nécessité de rassurer sur le rôle de la France, au-delà même de la potentialité demain de voir des frontières mises en danger ou menacées, mais sur le rôle de la France à l'international. La France ne subit pas cette situation, elle en est pleinement l'acteur. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas? Ça faudra parler avec un spécialiste de géopolitique, mais en tout cas, c'est le message qui doit être porté par le président de la République.
Est-ce qu'on était à la fois dans la diplomatie et le symbolique?
On était malgré tout beaucoup dans une forme de symbolique, tout bêtement, parce que cette adresse, elle a d'abord une adresse interne. On peut penser qu'elle peut être lue éventuellement par les chancelleries étrangères et par nos homologues. Mais là, clairement, le message, il était à adresse interne, beaucoup plus qu'à adresse externe et diplomatique. Donc là, on a vraiment un président qui joue l'interface entre le peuple français et le monde.
Un mot sur la forme, avant de parler d'autres sujets. Le décor, pour cette allocution, Emmanuel Macron assis à son bureau, un livre assez en évidence de Pablo Neruda, ça c'est ce que j'ai pu décrypter, prix Nobel de littérature en 1971, le poète chilien, un petit soldat napoléonien qui était sur ce bureau. Que faut-il en penser? C'est quoi l'image qu'il veut renvoyer, celle d'un président au travail?
celle d'un président au travail et celle d'un président qui se tourne vers l'international. Emmanuel Macron a toujours apprécié ce type de mise en scène. On avait une mise en scène dans sa première photo présidentielle qui se voulait plus Startup Nation avec un peu de De Gaulle. Là, on voit en effet qu'on a un président qui se tourne vers l'international et qui se tourne vers les activités militaires. Ça suit cette allocution d'un jour le positionnement du président de la République sur la doctrine nucléaire de la France, avec qui plus est, eh bien, une France qu'il veut aujourd'hui en première ligne pour la défense de l'Europe. Donc on voit qu'on a un message qui est tendu, qui est soutenu. Est-ce que ce message est bon ou pas bon? Est-ce que ce message est crédible ou est-ce qu'il n'est pas? Ça, je me garderai bien de me prononcer là-dessus. En revanche, il l'affirme avec une communication politique qui est parfaitement huilée et qu'il espère à la fois incarner sa politique et puis également lui permettre de transcrire et de poser son rôle. On a un Emmanuel Macron qui a un problème aujourd'hui de positionnement en termes de rôle, de présidentialisation du rôle par rapport notamment au débat interne. Ça, c'est quelque chose qu'il cherche à appuyer et qui ne lui profite pas nécessairement dans les sondages, mais dont il espère, sur lequel il espère capitaliser à terme.
Le politologue Benjamin Morel dans le 21h minuit de France Info avec Julien Langlais. Les frappes américaines et israéliennes ont continué ces dernières heures. Israël dit avoir lancé une large vague de nouvelles frappes sur l'Iran. Quand l'armée américaine assure que les premières frappes sur l'Iran sont près de deux fois plus nombreuses que celles sur l'Irak en 2003, cela montre l'ampleur de l'opération militaire, de quoi inquiéter très largement les proches de Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français retenus en Iran depuis 2022, qui sont désormais assignés à l'ambassade de France à Téhéran depuis le mois de novembre. Leur famille demande à l'État français de faire tout son possible pour obtenir leur rapatriement. Il faut agir vite, selon Thierry Moser, l'avocat de ces familles.
J'avoue que je me fais du souci pour leur sécurité. Vous savez que l'Iran a pris pour cible des installations militaires françaises. Vous savez également que des avions français sont intervenus pour neutraliser des drones iraniens. Et vous savez aussi que l'Iran considère la France comme co-belligérante aux côtés d'Israël et des États-Unis. Et je crains donc de la sorte d'action de représailles de la part des gardiens de la Révolution, de certains extrémistes, des actions de représailles contre nos otages. Je suis peut-être pessimiste, enfin je ne peux pas exclure cette triste éventualité de mon esprit. D'autre part, je redoute également, par ailleurs tout à fait différent, une action de bombardement des Américains ou des Israéliens à Téhéran. Et je crains qu'un projectile ne vienne tomber sur l'ambassade de France. En principe, c'est exclu. Mais enfin, est-ce que l'accident n'est pas une hypothèse possible? Donc, voyez-vous, peut-être que j'ai tendance à noircir la situation, mais je suis quand même ce soir et à l'heure actuelle donc dans l'incertitude et dans le souci.
Est-ce que vous avez pris langue avec les autorités françaises, avec le Quai d'Orsay? Est-ce que vous avez tenté d'avoir des nouvelles? Est-ce que les parents, la famille...
Le Quai d'Orsay me dit que les otages sont en sécurité à l'ambassade de France à Téhéran. Je prends acte de cette déclaration rassurante. J'espère, je pense et j'espère que cela correspond à la réalité. Enfin, je viens de vous indiquer, à tort peut-être, deux éventualités qui me font du souci et que je ne veux pas maintenant répéter.
Est-ce que vous avez des nouvelles de leur état de santé? Est-ce que la famille de Cécile Kohler, de Jacques Paris, arrive à communiquer régulièrement et à avoir des nouvelles?
Il semble que l'état de santé soit satisfaisant et par ailleurs, effectivement, je vous confirme avec satisfaction que la famille de Cécile et de Jacques ont des nouvelles en provenance de l'ambassade et peuvent communiquer librement et facilement, à ma connaissance, avec nos deux malheureux compatriotes.
Thierry Moser, avocat de la famille de Cécile Kohler et Jacques Paris et du comité de soutien des deux Français, hier soir sur France Info avec Julien Langlais. Direction la Turquie dans un instant, le pays partage 500 km de frontière avec l'Iran, mais il n'a pas été attaqué par Téhéran pour l'heure. Le président turc s'était dit attristé par la mort du guide suprême. Malgré tout, la situation inquiète les habitants. France Info reportage après un récap complet de l'info.
France Info, 5h-6h.
5h20 sur France Info et l'info en une minute, c'est avec Philippine Thibaudot. Un premier vol évacuant des Français du Moyen-Orient est arrivé à Paris. Une centaine de passagers dans cet avion en provenance d'Oman, des personnes vulnérables avec une situation médicale, femmes enceintes, familles avec des enfants en bas âge. Un deuxième vol est prévu pour rapatrier des ressortissants français du Moyen-Orient, a déclaré hier soir Emmanuel Macron. Parce que le conflit s'embrase dans la région, que des bases françaises et européennes ont été touchées, le président annonce aussi l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. La frégate Languedoc qui devait arriver hier soir pour aider à la sécurisation de Chypre, et des avions Rafale, des systèmes de défense antiaérien et de radars aéroportés déjà déployés ces dernières heures. Sur le front, l'armée israélienne continue ses frappes sur le Liban et le Hezbollah, allié de l'Iran. Elle demande ce matin l'évacuation de 16 villages dans le pays, au sud de la capitale Beyrouth. Ces attaques ont fait au moins 6 morts. Et puis en foot, affiche 100% Ligue 1 en Coupe de France. Reims en Ligue 2 a été battu hier par le club de Strasbourg. Suite des quarts de finale ce soir, Lorient reçoit Nice à 20h30 et à 21h, Marseille accueille Toulouse.
France Info, édition spéciale.
Voici le début d'un cinquième jour de guerre avec des frappes toujours très nombreuses. Israël annonce le lancement d'une large vague de nouvelles frappes sur l'Iran. L'État hébreu dit avoir mis hors d'usage environ 300 lanceurs de missiles iraniens depuis le week-end dernier. Téhéran a de son côté attaqué Israël en représailles, mais aussi les États du Golfe, le Liban, l'Irak ou encore Chypre, mais pas la Turquie, membre de l'OTAN qui partage 500 km de frontière avec l'Iran. Pourtant, la région de Van, frontalière avec l'Iran, dans cette guerre préoccupe tout de même les habitants, Timur Özturk.
Pour les Iraniens qui entrent en Turquie, la gare routière de Van est souvent la première étape. Mais le calme y règne ces derniers jours, témoigne Agit, qui travaille pour une compagnie de transport.
Ça a beaucoup baissé. Depuis deux jours, peu de voyageurs arrivent d'Iran. La gare routière est vide.
Entre les bus, un fourgon des services de l'immigration stationne. Les contrôles se multiplient sur la route depuis le début de la semaine. Agit, lui, craint les conséquences de la guerre chez le voisin iranien.
Nous sommes vraiment inquiets. La frontière est toute proche. Et puis il y a le pétrole. On parle d'une augmentation des prix du carburant.
Dans le centre-ville de Van, Eyup, keffieh autour du cou, tient un stand aux couleurs de la Palestine, orné de portraits de dirigeants du Hamas.
Pour l'instant, la Turquie est le seul pays du Moyen-Orient à ne pas participer à cette guerre. La Turquie appelle à des négociations. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Va-t-on vers un accord de paix? Quels pays vont rejoindre le conflit? Franchement, on n'en sait rien.
Et même si ce militant islamiste, sunnite, ne soutient pas le régime des Mollahs, chiites, il s'oppose au bombardement en Iran.
Malgré toutes nos divergences de vues, nous soutenons l'Iran contre les impérialistes américains et les sionistes israéliens.
Un avis que ne partage pas du tout Timur, retraité, kurde, comme la grande majorité des habitants de Van.
On ne souhaite la mort de personne, mais l'Iran l'a bien cherché pendant des années. Parce que les Mollahs ont violé les droits de l'homme, les Kurdes en particulier. Parce qu'ils ont opprimé au nom de l'islam, ils ont bien mérité cette guerre.
Il dit n'avoir aucune sympathie pour les dirigeants américains et israéliens, mais le régime iranien doit tomber, conclut-il.
Le reportage en Turquie, dans la région kurde de Van, de Timur Özturk sur France Info. Et le monde d'Élodie toute cette semaine, c'est avec l'auteur, compositeur et interprète italo-belge Salvatore Adamo.
Bonjour Salvatore Adamo.
Bonjour Élodie, bonjour à toutes et à tous.
Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans.
Depuis lundi, vous nous accompagnez sur France Info dans le monde d'Élodie. En fait, on a fermé les portes, on vous a kidnappé. Nous parlons de votre tournée avec l'Olympia le 22 mars, la Gare du Midi à Biarritz le 21 avril, le 21 juin au Havre et le 7 octobre à Clermont-Ferrand. Et de votre dernier album aussi, Des Nèfles et des Groseilles, sorti il y a quelques mois. Dans ce petit dernier, du haut de vos 80 printemps, dans la chanson Entre toi et moi, que vous chantez à la fois seul et à la fois avec Axel Red, vous mettez le doigt sur la difficulté de la vie de couple. Il y a toujours ce côté charnel, avec ce sourire aux lèvres personnel, avec cette intimité qui fait aussi partie de votre écriture et de vos émotions. On a le sentiment que la naïveté et l'insouciance ont toujours fait partie de vous et que vous avez compris qu'il fallait cultiver ça pour réussir à continuer à créer de l'encre pour vos chansons.
La naïveté, à mes débuts, bien sûr, elle est inconsciente. Donc j'étais à fond dans ce que je disais, ce que je pensais. Et c'est avec le recul et le temps que je me suis rendu compte que j'étais un peu naïf. Mais aujourd'hui, j'essaie de ne pas la perdre complètement, cette naïveté. C'est aussi une forme d'honnêteté et je l'assume complètement. Je suis un naïf lucide.
Je voudrais qu'on parle de Mes mains sur tes hanches. Cette chanson, elle pose la main sur quelque chose, enfin elle met le doigt sur quelque chose, mais il n'y a pas de main baladeuse en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'élégance dans ce que vous racontez.
Ah mais vous savez, à l'époque, les mains sur les hanches, on l'a touché à peine la hanche. C'était très clean, comme on dirait. Non, mais Mes mains sur tes hanches, je l'avais écrite parce que je m'étais rendu compte que ma fiancée de l'époque, qui est devenue ma femme, avait un peu mal pris le fait que j'avais écrit quelques chansons avec des prénoms féminins, qui n'étaient pas forcément le sien. Et donc, j'ai compris que, bon, fallait que j'arrête. Donc, je lui ai expliqué que pour écrire des chansons et pour les rimes, il fallait des prénoms plus faciles à placer, quoi.
Ça aide ou pas quand on est chanteur, justement, de se créer des histoires avec d'autres personnes d'une façon complètement inventée, romanesque.
Je n'écris pas que des chansons autobiographiques. Heureusement, parce que si j'avais dû vivre toutes les ruptures que je chante dans mes chansons, mais qui m'ont été inculquées par les chansons que j'écoutais avec mon père, les chansons napolitaines où il y avait toujours un homme à genoux devant la femme, la priant, suppliant de revenir. Ça m'a imprégné, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand une chanson d'amour me vient encore à l'esprit, dont j'ai l'impression de ne pas encore l'avoir traitée de cette façon-là, je suis content.
Il y a une chanson qui a beaucoup marqué votre parcours, c'est « Inch'Allah ».
Oui.
Vous avez été attaqué à de nombreuses reprises pour cette chanson. Elle vous est venue un jour où vous avez visité Israël. Vous avez
Jérusalem,
eu besoin, oui. Jérusalem. Vous avez eu besoin justement de créer une chanson pacifiste pour essayer de rapprocher les peuples. Je voudrais que vous me racontiez comment est née cette chanson.
Cette chanson, je l'ai écrite en visitant Jérusalem, accompagné de Charles Marouani, l'imprésario de Jacques Brel, de Nougaro. Et j'ai eu la chance de l'avoir aussi. Donc c'était un jour de sabbat, je m'en souviens. Et Charlet montre une forêt. Et il me dit, cette forêt, elle a 6 millions d'arbres. Et chaque arbre a été planté pour commémorer un juif tombé pendant la Shoah. Une fois que la visite était terminée, je suis rentré à l'hôtel. Et le texte était dans ma tête, en vers. Maintenant, cette chanson m'a valu d'être banni dans les pays arabes à cause d'un malentendu. Mais avec les années, je me suis rendu compte que, sans aucun doute, je n'avais pas suffisamment fait allusion à la souffrance du côté palestinien. Et aujourd'hui, je la chante d'abord en disant « Dieu de l'enfer et au Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble ». En Palestine, en Israël, il y a des enfants qui tremblent. Et à la fin, je dis « Requiem pour toutes ces âmes de ces hommes et ces femmes tombées des deux côtés du drame ». Et je tiens à ce que ce soit comme ça, même si j'ai eu des réactions négatives, cette fois-ci du côté extrémiste israélite.
Merci beaucoup, Salvatore, de passer la semaine avec nous sur France Info. Des Nèfles et des Groseilles, l'album est disponible. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes en concert dans toute la France avec une date à l'Olympia à ne pas manquer, avec ces lettres rouges qui vont apparaître et qui vont évidemment montrer le nom de famille de ce monsieur qui nous accompagne depuis 6 décennies. À demain, Salvatore.
À demain, Élodie.
On parlera, j'aimerais bien qu'on parle d'une chanson. On va parler des collaborations déjà, c'est très important.
D'accord.
Donc on va parler de Christophe, d'Olivier Ruiz et de toutes celles qui vous accompagnent, même
plaisir.
D'Axel Red, et de Camille, avec Justin. Je t'aime.
Allez.
On en parle demain ?
On en parle demain.
Allez, à demain.
J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. J'ai vu.
Le monde d'Élodie est à retrouver sur franceinfo.fr. La météo tout de suite.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
5h28 sur France Info. Christine Peña est de retour avec nous pour la météo. Soleil au nord,
oui.
Et nuageux dans le sud.
Mais exactement, au nord, nous sommes vraiment protégés par l'anticyclone qui est positionné sur l'Allemagne et qui étend son influence donc sur toute une grande partie nord, alors que les régions du sud, ça va de l'Aquitaine à l'Occitanie jusqu'à la région PACA, la Corse, là nous avons pas mal de nuages avec quelques petites pluies encore qui peuvent circuler et nous avons cette poussière de sable du Sahara qui rend d'ailleurs les nuages, la base des nuages un peu ocre parfois et qui peuvent bien transporter ces poussières de sable et les plaquer au sol avec cette pluie et du coup salir vraiment les sols. Ces derniers jours, donc nous avons des des brouillards par endroits. Ils sont plutôt situés sur les Hauts-de-France, d'ailleurs les Flandres et de Valence jusqu'au Boulonnais, plus rares vers les plages de la Manche. Hein, c'est plutôt vers l'intérieur des terres qu'on trouve quelques nappes de brouillard qui vont vite se dissiper. Ensuite, le soleil va briller généreusement avec ce petit vent de sud-sud-est qui participe d'ailleurs à faire remonter les températures sur cette partie nord jusqu'à 17 à Dijon, 18 à Lille, comme à Tours, comme à Montauban et Marseille. Même température, une masse d'air bien homogène. 19 à Paris comme à Lyon, à Bordeaux, 20 degrés à Ajaccio, à Biarritz, mais également 20 degrés à Limoges. Et cette période de grande douceur d'ailleurs se poursuit au moins jusqu'au week-end. Nous sommes au niveau national, 5 degrés au-dessus des valeurs de saison et des valeurs hivernales. Hein. Je vous rappelle qu'on est toujours en hiver et davantage d'ailleurs dans certaines régions pour vous retrouver avec des températures dignes d'un mois de mai parfois. 19 au Havre hier après-midi. Par exemple, la moyenne est à 10 degrés normalement. C'est 9 degrés au-dessus des valeurs
beaucoup.
De saison. Voilà. C'est bien
de le rappeler.
Calculer, hein. 19, oui. 10, voilà. 9
Bravo.
Degrés.
Merci beaucoup Christine Peña, merci à tous d'être à l'écoute de France Info. Notre édition spéciale se poursuit, décryptage de cette guerre qui se poursuit au Moyen-Orient, décryptage de la prise de parole du chef de l'État aussi hier soir. Le président annonce notamment l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, c'est à la une du journal de 5h30. Mais on parlera aussi des élections municipales dans le choix de France Info avec le Rassemblement National qui compte bien s'implanter dans de nombreuses villes. Premier tour le 15 mars prochain. Merci d'écouter France Info, il est 5h30.
France Info. Maureen Suignard.
Des explosions entendues à Jérusalem au petit matin, et cela après le déclenchement des alertes antimissiles. L'Iran riposte encore aux attaques américaines et israéliennes. Situation toujours très tendue, anxiogène. Emmanuel Macron a pris la parole hier soir pour rassurer, montrer que la France agit également. Éric Bégala, le chef de l'État, aussi chef des armées, a ordonné le déploiement de bâtiments et d'avions de guerre.
Le déploiement a déjà commencé. La frégate française Languedoc est en passe d'arriver sur Chypre pour aider à la sécurisation de l'île. Le président de la République, dans son adresse d'hier soir, a précisé avoir déjà envoyé des avions Rafale, des batteries de défense solaire et un radar aéroporté pour aider les pays du Golfe avec qui la France a des accords de défense, Koweït, Qatar et surtout Émirats Arabes Unis. Mission de ces forces, qui pourront être augmentées autant que de besoin, a précisé le président, participer à la défense de ces pays. Et puis bien sûr, Emmanuel Macron a confirmé l'envoi en Méditerranée du groupe aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle. 40 chasseurs Rafale, 2000 marins et aviateurs embarqués, c'est le fer de lance des armées françaises. Mission de cette force, selon Emmanuel Macron, reprendre et sécuriser le trafic maritime tant en mer Rouge que dans le golfe Persique en clair. Le groupe aéronaval, qu'il s'agisse du porte-avions ou de ses avions, comme des autres Rafales, tous vont se retrouver au milieu d'une bataille en cours et vont devoir au moins se coordonner avec les bâtiments et les appareils d'attaque américains ou israéliens. Ce serait une manière de rentrer de plein pied dans cette guerre. Pour l'instant, israélo-américaine contre l'Iran.
Éric Bégala. Par ailleurs, Emmanuel Macron estime que l'Iran porte la responsabilité première de cette guerre, mais dénonce des opérations militaires menées en dehors du cadre international, notamment au Liban. Il met en garde Israël. Une opération terrestre au Liban serait selon lui une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le rapatriement de Français a aussi débuté. Un premier avion a atterri pendant la nuit à Paris. Le ministère de l'Industrie affirme qu'il veillera à ce que le repreneur des papeteries Conda embauche prioritairement les anciens salariés. Hier, le groupe SPB a annoncé la reprise de Conda en Dordogne. Il veut transformer l'usine pour recycler de l'aluminium pour l'industrie automobile notamment. Mais il ne souhaite conserver que 10% des salariés actuels et embaucher 300 personnes dans les prochaines années. Il n'y a jamais eu d'incident avec Curtis, se défend Christophe Ellul. L'ancien conjoint d'Elisa Pilarski est jugé depuis hier dans l'Aisne. Le pitbull de l'homme est accusé d'avoir mortellement mordu la femme qui était enceinte à l'époque. Christophe Ellul, âgé de 51 ans aujourd'hui, est accusé d'avoir importé illégalement ce chien des Pays-Bas. Mais il assure que ce sont des chiens de chasse à cour qui avait attaqué sa conjointe. On le qualifie déjà de prodige et il n'a pas fini de surprendre. À seulement 22 ans, le français Victor Wembanyama, qui joue aux États-Unis, vient d'être désigné meilleur joueur de la conférence Ouest en février. Une pépite française et il y en a peut-être d'autres. La deuxième édition du Young Star Game de basket est organisée ce soir en région parisienne. Des jeunes basketteurs français jouent sous les yeux des recruteurs américains venus repérer de futurs potentiel. Les Français intéressent le monde entier, selon Georges Eddy, une des grandes voix du basket en France.
C'est une belle innovation. Il faut dire qu'à partir du moment que Victor Wembanyama a été scruté par le monde entier avant d'être drafté par la NBA, maintenant, tous les scouts de tous les pays, ils ont les yeux rivés sur les jeunes Français qui sortent de nos excellents centres de formation. Donc, ils ont créé un All-Star Game pour les jeunes. Et donc, tous les meilleurs jeunes de 18 à 20 ans vont se retrouver dans un match ou dans la salle. Il va y avoir surtout beaucoup de scouts et de recruteurs de la NBA, des universités américaines. Donc, c'est une magnifique vitrine pour se mettre en valeur pour ces jeunes-là.
Georges Eddy, le journaliste sportif franco-américain spécialisé dans le basketball sur France Info.
France Info, édition spéciale, Maureen Suignard.
L'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron hier soir lors d'une courte allocution télévisée, moins de 10 minutes. Le chef de l'État ajoute tout de même que les frappes israélo-américaines toujours en cours sont conduites en dehors du droit international. Ce conflit touche des milliers de Français, des expatriés dans la région ou des touristes bloqués en raison de la paralysie du trafic aérien. Le chef de l'État assure que la France va organiser rapidement le rapatriement de ses ressortissants. Il y a déjà eu un premier vol qui a atterri à Paris pendant la nuit. Le chef de l'État annonce par ailleurs le déploiement de moyens supplémentaires, les moyens militaires.
Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée.
Le Charles de Gaulle envoyé en renfort pour aider à la protection des alliés de la France, confrontés aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Emmanuel Macron précise aussi que la France a abattu des drones dès les premières heures du conflit pour défendre, dit-il, l'espace aérien de nos alliés. Cette mise au point du chef de l'État était nécessaire, selon le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école et de guerre et spécialiste des affaires stratégiques et militaires.
Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État et chef des armées, après aujourd'hui 4 jours de guerre, devait prendre la parole, expliquer la situation aux Français. Donc il s'est exprimé à point nommé dans son rôle de chef de l'État. Il l'a fait à la fois pour rassurer et pour exprimer le fait que la France avait observé ce conflit et que désormais elle allait agir et exercer toutes ses responsabilités vis-à-vis de ses alliés et vis-à-vis de ses ressortissants, qu'ils soient à l'étranger et dans la région du conflit ou bien sur le territoire national.
Quelle est la signification pour les militaires justement d'envoyer le porte-avions Charles de Gaulle, et pour être très concret, quelle va être sa mission?
Écoutez, sa mission, on ne sait pas exactement où il va aller, mais il va se projeter en Méditerranée orientale, zone à partir de laquelle ces aéronefs pourront assurer la mission de défense des ressortissants de nos emprises et puis des pays avec lesquels nous avons des accords. Nous avons, nous le savons, cette mission défensive pour aller jusqu'à des ripostes vers les armes qui auront pris à partie nos intérêts.
C'est assez intéressant, général Vincent Desportes, mais nous ne sommes pas, vous l'avez dit, partie prenante dans ce conflit. Néanmoins, quel est le cadre d'intervention possible pour les militaires français dans ce type d'opération, alors que nous ne sommes pas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, partie prenante dans cette guerre?
Contrairement à cette guerre qui a été déclarée en dehors du droit international, nous agirons dans le cadre de ce droit international, c'est-à-dire dans le cadre de la légitime défense et dans le cadre de la légitime défense des pays avec lesquels nous avons passé des accords de défense. Donc contrairement à d'autres, je pense à Israël et aux États-Unis qui ont agi en dehors de tout cadre légal international, la France, à son habitude, veut se tenir dans le cadre de l'ordre international.
Et le chef de l'État l'a d'ailleurs rappelé, il y a déjà eu des interventions militaires, notamment qui visaient des drones qui se dirigeaient vers la base française aux Émirats Arabes Unis.
Absolument. Comme nous l'avons fait régulièrement depuis le début de la, depuis le 7 octobre 2023, les avions français, la marine française a régulièrement participé à la sécurisation des espaces aériens. Nous l'avons fait à nouveau, évidemment, depuis samedi dernier, 7h30, heure du début de la guerre.
Le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et spécialiste des affaires stratégiques et militaires, invité du 21h minuit de France Info. La France rentre donc un peu plus dans le conflit au Proche-Orient, mais de façon défensive pour le moment. Mais pour Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, cette allocution du chef de l'État, qu'il qualifie de fourre-tout, ne place pas la France sur le devant de la scène internationale.
Le problème de cette allocution, c'est que une fois de plus, Emmanuel Macron fait un peu dans le en même temps, quoi, qui du coup ne place pas la France dans une situation d'être un acteur important de ce qui est en train de s'ouvrir sur le plan international. Car ce qui s'ouvre de manière très claire, c'est que encore plus fortement que lors de ce qui s'est passé au Venezuela, c'est désormais la loi du plus fort qui régit les rapports internationaux au lieu du droit international. C'est ça la marque particulière de l'attaque israélo-américaine. Et je regrette que le chef de l'État, de ce point de vue-là, ne fasse que le constater et n'ait pas un mot même de prise de distance, qui fait qu'on peut presque dire qu'il y consent. Donc ça, c'est pas ça qui place la France dans une position pour la suite d'être justement le pays qui continue à défendre le droit international et qui est prêt à proposer ça comme alternative. De l'autre côté, il y a effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les mots quand même vis-à-vis d'Israël par rapport au Liban, qui sont importants, parce que je rappelle que la France a un accord de coopération de défense avec le Liban, et c'était évidemment nécessaire. Et le fait que pour l'instant, en tout cas, a priori, la France reste dans une implication, j'allais dire, défensive vis-à-vis de ses accords avec le Golfe, vis-à-vis de l'Iran, et non pas, comme on aurait pu à un moment donné le craindre, d'annonce, j'allais dire, d'une implication plus forte. Mais tout ça ne fait pas une ligne. Tout ça ne nous met pas en position de force sur la situation actuelle.
Vous demandez toujours à la France insoumise la tenue d'un débat à l'Assemblée nationale ?
Oui, enfin, ce qu'on demande d'abord, c'est que la France devrait exiger le cessez-le-feu, parce qu'on voit bien que ce conflit est extraordinairement dangereux d'un point de vue régional et même mondial, qu'il a des implications économiques très fortes. C'est d'ailleurs un des objectifs de guerre des Américains que de paralyser notamment l'approvisionnement en pétrole de la Chine, de vendre davantage le pétrole qu'elle produit elle-même en termes de gaz de schiste. Et donc, de ce point de vue-là, la France devrait exiger cesser le feu pour l'intérêt de tout le monde. Et évidemment, le Parlement doit avoir son mot à dire, d'où notre demande d'un 50-1.
L'intérêt, Éric Coquerel, pour être très concret, pour les Français, d'un débat au Parlement, c'est quoi ?
Théoriquement, à partir du moment où la France, sans être encore totalement belligérant, mais quand on voit quand même le porte-avions Charles de Gaulle, annonce quand même des survols de rafales au-dessus du Golfe, envoie quand même un message à Israël. Alors on verra jusqu'où ça va. Moi, je pense que la France pourrait, par exemple, symboliquement, là aussi, indiquer qu'elle sera en mesure de protection. Le Parlement a son mot à dire, parce que de fait, c'est un contexte de guerre. Et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un débat parlementaire sur une situation extraordinairement dangereuse.
Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, il répondait aux questions France Info de Julien Langlais. Des milliers de Libanais sur les routes, le Liban entraîné une nouvelle fois dans un conflit, le Hezbollah, milice pro-iranienne, a attaqué Israël, qui réplique désormais de manière massive. Parole d'exilé au micro France Info de notre correspondant sur place, dans une minute après le récap de l'info.
France Info, 5h-6h.
5h43 sur France Info et à la une, Philippine Thibaudot. Emmanuel Macron envoie le porte-avions Charles de Gaulle au Moyen-Orient.
Et il fait route vers la Méditerranée ainsi que la frégate Languedoc qui, elle, devait arriver hier soir à Chypre, là où une base britannique a été touchée par un drone iranien. Cas de force majeure compte tenu de l'embrasement de la guerre au Moyen-Orient, a justifié hier le président de la République. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a aussi précisé que la France avait abattu des drones en légitime défense dès les premières heures du conflit. deux bases françaises également touchées par des frappes. Dans ce contexte, une centaine de personnes rapatriées depuis Oman arrivées cette nuit à l'aéroport Charles de Gaulle. Premier rapatriement de ressortissants français dits vulnérables. En France, le Conseil d'État donne raison à l'État. Dans l'affaire des lèses infantiles rappelées, des familles avaient déposé un recours. Elles contestaient les recommandations formulées aux soignants et hôpitaux pour justifier d'une suspicion d'intoxication chez un bébé hospitalisé. Selon le Conseil d'État, ces recommandations n'ont pas d'incidence directe sur la prise en charge des nourrissons. Et puis à l'heure des vacances, vous êtes un peu plus nombreux à chaque fois à vous tourner vers les gîtes de France. La fréquentation a augmenté de 4% l'an passé et dépasse les 28 millions de nuitées.
France Info, édition spéciale.
De nouvelles explosions entendues à Beyrouth, la capitale libanaise. Le chef de l'armée israélienne promet de frapper le Hezbollah jusqu'à ce qu'il se désarme. Le Hezbollah, milice pro-iranienne, les frappes israéliennes ont déjà fait plus de 50 morts et 58 000 déplacés en seulement deux jours. Un énième conflit que les civils tentent à tout prix de fuir, notamment dans la ville de Tyr, près de la frontière dans le sud du pays. Le Tyr qui se vide de sa population, Arthur Saradin.
Certains sont déjà là depuis 30 heures dans cet embouteillage vers la capitale. D'autres, qui n'avaient plus assez de carburant, ont abandonné leur voiture sur cette route en provenance de la ville de Tyr. Wala et sa famille ont posé bagages sur un simple parking.
Nous n'avons personne chez qui aller. Comment va-t-on supporter de dormir ici ? Moi et mes enfants, nous avons été surpris par un bombardement. Ils ont commencé à pleurer quand nous avons ouvert la porte. Le monde autour était dévasté, de la poussière partout et une chaleur suffocante. Tant de gens sont morts, des enfants, des femmes. Jusqu'à quand cela continuera ?
Plus au sud, l'entrée de la ville de Tyr, bombardée par l'armée israélienne. Les ambulances de la défense civile s'y pressent. Lamia est originaire des quartiers sur la côte, encore épargnée.
Chaque fois qu'on dit que cela va se terminer, tout s'intensifie. C'est injuste pour nous d'être ainsi déplacés à répétition. Une telle plaie n'est pas censée se rouvrir autant. Vous savez, nous avons payé le prix de tant de causes qui ne concernaient pas le Liban. Notre pays n'a pas besoin de cela.
Les trois quarts des habitants ont déjà quitté la ville. Ici, des hommes sont en train de déblayer les décombres d'un immeuble d'une dizaine d'étages pulvérisé par l'armée israélienne, dont l'aviation quadrille encore le ciel.
Nous étions assis chez nous, dans nos maisons, en sécurité. Soudain, les Israéliens ont ordonné notre évacuation et lancé des avertissements.
Ahmad, 33 ans.
Tout le monde est descendu sans rien emporter, ni vêtements, ni affaires. Sur les 12 étages, si tu comptes qu'il y avait à chaque fois 2 à 3 appartements, ça veut dire qu'en plus de tous les autres immeubles affectés dans le quartier, tu as au moins 30 familles qui se sont retrouvées d'un seul coup à la rue, sans aucun abri.
À la place des ruines que regarde Ahmad, se trouvait l'une des branches de la compagnie bancaire du Hezbollah. Au loin, plus au sud, on entend parfois les quelques tirs de roquettes envoyés sur le nord israélien, celles qui ont de nouveau plongé le Liban dans un cycle de représailles destructrices.
France Info reportage d'Arthur Saradin, notre correspondant au Liban. Et voici l'heure du choix de France Info. À 5h46, à moins de 2 semaines du premier tour des élections municipales, les Français appelés à choisir leur maire. Et cette année, le Rassemblement National compte bien conquérir des dizaines de villes comme Toulon, Nice ou encore Marseille. Avant, le parti d'extrême droite était surtout concentré sur l'élection présidentielle. Là, ce sont plus de 600 candidats qui ont été investis par le parti. Le Rassemblement National veut aussi s'implanter dans de petites communes ou des villages. Bonjour Julie-Marie Lecomte.
Bonjour.
À Bazouges, Crest-sur-Loire, dans la Sarthe, il y a un tout petit peu plus de 2000 habitants, un peu moins de 1700 électeurs sur les listes électorales. Et il y a 3 candidats. 2 sont officiellement sans étiquette. Et pour la première fois, il y a un candidat clairement estampillé Rassemblement National. Alors comment cette candidature est-elle perçue ?
Eh bien, avec un certain étonnement, même chez des électeurs du Rassemblement National qui ne voient pas bien comment, ici, au municipal, le parti peut prospérer sur ses thèmes de prédilection.
Et ici, à Bazouges, on n'a pas d'immigration, on n'a pas de barre d'HLM, on n'a pas de grosse usine dans le coin qui fait qu'on a été obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère comme à Sablé. C'est vraiment tranquille, quoi. Il y a pas... On est tout le temps, on est au courant de tout.
À Bazouges, c'est la meilleure ville du monde.
Des habitants qui vantent la douceur angevine et ne comprennent pas bien pourquoi le Rassemblement National veut planter un drapeau.
S'il veut mettre le drapeau français, c'est là où il faut que ça bouge. C'est pour les petites communes, c'est là où ça bouge. Nous, on va faire quoi à notre échelle ? Un maire représente ton village, là où tu vis. un président, voilà, il gère la France.
Le maire actuel, il a toujours fait plein de choses pour la commune et toutes les personnes qui sont dans sa liste, on en connaît beaucoup. J'attache pas d'importance à l'étiquette.
Au présidentiel, oui, j'irais plus voir
le RN. Ce couple de retraités a été approché pour faire partie de la liste et à décliner.
Ils sont allés voir les gens un à un. Ils font bien leur maillage, ça se remarque. Pour voir toutes personnes une par une. Hein.
Je voterai peut-être avec eux, pour eux, dans un an.
En 2017, Bazouche Cré-sur-Loire a voté pour Emmanuel Macron. Mais depuis les européennes de 2019, le Rassemblement national est toujours arrivé en tête aux élections nationales.
Donc Jean-Charles Bouzanne, candidat à la mairie de Bazouche Cré-sur-Loire pour la liste Rassemblement national. Il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national à Bazouche Cré-sur-Loire et jamais personne pour les représenter. Donc c'est fait.
Le maire, il n'a pas d'étiquette. La liste adverse n'a pas d'étiquette.
C'est de l'hypocrisie, voire même de la lâcheté aussi. C'est ne pas assumer ses opinions. Nous avons un maire de droite et il y a une liste de gauche. Notre bon maire, qui est au demeurant fort sympathique, est élu avec essentiellement des voix du Rassemblement national et depuis toujours.
Donc là, vous allez lui reprendre vos voix.
On va reprendre nos voix, les voix du Rassemblement national, tout simplement. Et on va le laisser avec les siennes. C'est aussi bête que ça. On espère bien aussi convaincre d'autres personnes pour apporter une nouvelle dynamique à notre ville et au mouvement national de prise des villes et des villages, pour apporter une pierre à l'édifice. Un pas de plus vers 2027.
Et là voilà, la liste dite de gauche.
Bonjour, donc je suis Marie-Hélène Souchard et je suis la tête de liste de la liste Agir Ensemble.
Je suis le numéro 2 de la liste avec Marie-Hélène.
Benoît Siron, brocanteur à Cré-sur-Loire, citoyen engagé.
C'est votre magasin,
oui,
là ?
Bric-à-brac.
D'accord.
De voir une liste FN, ça m'a vraiment choqué au premier abord. Et après, motivé.
On a encore plus envie de porter nos valeurs.
On a la tête de liste depuis un mois, nous fait des belles affiches en quadrille partout dans le village. C'est des affiches politiques. Bon, nous, on a une affiche d'équipe, on affiche des gens qui ont envie de bouger.
C'est pas la même stratégie.
C'est pas la même chose.
Bonjour madame. Bonjour. Je viens vous voir dans le cadre des élections municipales. On veut travailler en lien étroit avec les citoyens.
C'est bien ça.
On reste bien les pieds sur terre sur notre territoire et on est bien là pour le service de la population. Et on n'a pas la place pour la politique et on n'a pas la place pour ce RN.
Moi je dis que c'est bien qu'il se présente, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui aiment, moi j'aime pas. J'aime pas leur méthode, leurs a priori, j'aime pas. Mais je pense qu'ils arriveront un jour.
Et cela, le maire sortant le pense aussi.
Donc nous voilà au bord du Loir, prêts à affronter ces élections municipales. Où ça fait 2 mandats.
12 ans que je suis maire et là je me représente. Et si je vais jusqu'au bout, ça fera 18 ans.
Guénel de Sagazan doute assez peu de se faire réélire, mais il se prépare au moins à avoir des élus Rassemblement National dans son prochain conseil municipal.
S'il faut faire avec, on fera avec. On a une liste aussi qui est à gauche, voire très à gauche, qui est écologiste, qui nous a apporté beaucoup dans le dernier mandat aussi. S'il y a des compétences, on prendra les compétences sans vergogne. Les idées, ça nous est un peu égal. On peut penser ce qu'on veut. C'est un pari, c'est qu'il se dilue peu à peu dans l'ensemble et que la couleur politique, je dirais, soit moins apparente et moins réelle. Peut-être que je me trompe, il est possible que je me trompe.
L'ancien banquier d'affaires propose de revenir dans un an pour en juger.
Le choix de France Info, signé Julie-Marie Lecomte, à retrouver sur franceinfo.fr. Et vous pouvez retrouver la liste de tous les candidats présents au premier tour des municipales, à Bazouche Cré-sur-Loire, mais aussi dans votre commune, grâce à notre moteur de recherche sur franceinfo.fr. On vous donne rendez-vous le 15 mars prochain, le soir du premier tour, à partir de 20h, pour tous les résultats officiels dans les communes de France. Soirée spéciale à venir. Il est 5h52 et dans moins de 5 minutes, ce sera l'heure de la playlist de France Info avec Philippine Thibaudot, avec des mots fleuris utilisés par Radiohead. Vous nous direz pourquoi, Philippine. D'abord, c'est le réveil de l'écho avec Emmanuel Cuny. Bonjour.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Toute l'actualité économique en 3 titres. Grâce à vous chaque matin, Emmanuel Cuny. Donc les marchés financiers asiatiques continuent de plonger en réaction à la guerre au Moyen-Orient.
Oui, la bourse de Séoul dévisse de 12%. Tokyo perd actuellement 4%. Hong Kong 3%. Alors c'est l'ensemble des places asiatiques qui sont en repli pour le troisième jour consécutif. En plus de la guerre au Moyen-Orient, les bourses d'Asie suivent celles des États-Unis. Hier soir à New York, l'indice Dow Jones a terminé en baisse de près de 1%. Il faut savoir que la Corée du Sud est le 8e plus gros consommateur de brut au monde. Il est très dépendant, le pays est très dépendant des hydrocarbures du Moyen-Orient. Quant aux champions des composants électroniques, ils pâtissent du regain d'inquiétude sur l'essor de l'intelligence artificielle. Par exemple, l'action Samsung perd ce matin entre 6 et 7%.
Qu'en est-il du côté du pétrole ce matin ?
Eh bien, sur le marché international, le baril de Brent de Mer du Nord, c'est la référence en Europe, vaut actuellement 82,56 $. Et le WTI, là c'est la référence américaine, le baril de WTI est à 75,35 $, les deux en légère hausse par rapport à leur cours d'hier.
Vous nous parlez également ce matin, Emmanuel Cuny, d'une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui soulève de nouveau la question des salaires entre les femmes et les hommes.
Oui, 4 femmes cadres sur 10 ne se sentent pas à l'aise pour demander à leur employeur les salaires de leurs collègues qui occupent un emploi équivalent. Un frein toujours psychologique, alors que la directive européenne sur la transparence salariale les autorise à faire cette démarche. Alors les femmes sont 57% à considérer qu'une telle demande sera mal perçue par l'employeur ou le manager, contre 46% des hommes. La transposition en France de cette directive européenne, qui doit en principe intervenir au plus tard le 7 juin, prend du retard. Un projet de loi est attendu à l'automne à l'Assemblée nationale.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
L'assurance chômage devrait être déficitaire d'un peu plus de 2 milliards d'euros cette année. Ce sont les toutes dernières prévisions que publie l'UNEDIC, le gestionnaire du système. Moins de création d'emplois et faible croissance entraînent moins de rentrées de cotisations, mais du mieux est quand même attendu normalement pour 2027 et 2028.
Merci Emmanuel Cuny et à tout à l'heure. 5h55 sur France Info, l'heure de la playlist du jour. Avec vous Philippine Thibaudeau, direction les États-Unis. Aujourd'hui, où Radiohead envoie promener Lice qui a utilisé une de leurs chansons.
Ah, ils sont pas contents, hein, les membres du groupe Radiohead, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont découvert que Lice, la police de l'immigration, très contestée aux États-Unis pour ses méthodes, avait réutilisé dans une vidéo sur les réseaux sociaux leur titre « Let Down ». Dans cette vidéo, on voit des photos de citoyens américains victimes, selon l'agence gouvernementale, des violences des étrangers en situation irrégulière qui, je cite, violent et assassinent ces citoyens. Et en fond, donc, la chanson Let Down en version chorale, l'original de l'album OK Computer sorti en 1997, c'est celle-là. Réaction immédiate donc du groupe de rock britannique avec un communiqué qui exige que Lice retire la chanson utilisée sans leur autorisation et qui termine en invitant la police de l'immigration à « go fuck yourselves » en français. Allez-vous faire... Bon, vous avez compris, Maureen.
C'est pas la première fois, Philippine, que des artistes dénoncent l'utilisation de leur musique par la police de l'immigration américaine.
Oui, la dernière en date, Olivia Rodrigo. L'American Beach, là aussi je vous ai parlé de la traduction, langage fleuri, utilisé aussi par Lice en novembre dernier dans une vidéo qui encourage les migrants sans papier à quitter le pays. La chanteuse à son tour demande alors à enlever sa chanson, ce qui a été fait peu de temps après. Autre exemple, la chanson Juno de Sabrina Carpenter. Là aussi, la police de l'immigration a utilisé sa musique sans son autorisation. La star américaine monte au créneau sur les réseaux sociaux. Mais l'ont-ils entendu ou l'ont-ils seulement lu ? Un peu plus tard, la police publie une nouvelle vidéo dans laquelle la chanteuse est mise en scène en train d'arrêter un homme pour séjour illégal. Lice qui décidément fait la sourde oreille.
Philippine Thibaudeau pour la playlist du jour sur France Info, merci. C'est la météo dans un instant. France.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peña, on parlait de langage fleuri avec Radiohead. Ça tombe bien, bon, on se croirait au printemps.
Oui.
Avec une douceur fleurie, qui reste très marquée.
Comme le printemps, effectivement.
Oui, parce qu'il y a des fleurs au printemps.
Oui. Voilà. J'ai eu peur, tout d'un coup. Effectivement, nous avons des températures dignes d'un mois de mai. Vous savez que 19 à Paris, on devrait avoir 11 degrés, donc ça fait 8 degrés de différence.
Bravo. En plus, vous êtes toujours super bonne en calcul.
Mais toujours. Nous avons une France coupée en deux avec du soleil sur une bonne partie nord. Et puis, au sud de la Garonne, en vallée du Rhône, jusqu'en Corse, nous avons ces nuages qui ne laissent pas du tout passer le soleil. Vous aurez une sensation pas désagréable avec ces températures également autour de 18-19 degrés. Cette masse d'air très homogène avec quelques petites pluies encore, notamment vers le Languedoc toujours.
Merci Christine Peña, spécialiste des mathématiques tous les matins sur France Info.
Méga scientifique.
Merci, il est 5h59, presque 6h, l'heure de retrouver Adrien Beck, on a de la chance. C'est le début du 6-9 et la suite de l'édition spéciale consacrée au Moyen-Orient. Bonjour
Effectivement,
Adrien.
Effectivement, quelle ambiance malgré tout avec vous ma chère Maureen Suignard. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et à tout à l'heure Maureen, ravie de vous retrouver en ce mercredi matin. Bonjour Christine Peña.
Bonjour.
On va continuer
c'est le milieu,
les mathématiques.
Voilà.
Oui, c'est le milieu de la semaine,
voilà.
Ça se voit d'ailleurs.
C'est bien calculé.
Ça s'entend. Également à nos côtés ce matin, Sarah Ders. Bonjour Sarah.
Bonjour.
On vous retrouve dans quelques secondes pour le journal. Effectivement, Maureen, vous nous le disiez, la guerre en Iran domine toujours l'actualité ce matin, les derniers développements.